7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Sèche tes larmes et sois un homme. Ces mots, vous les avez peut-être déjà entendus. Aujourd'hui, nous parlons du rapport des hommes à leurs larmes. Les larmes vues comme naturelles chez les enfants, relativement admises pour les femmes. Mais quand il s'agit des hommes, elles peuvent être perçues comme un aveu de faiblesse, comme le signe d'un échec. On dit pourtant que pleurer permet de se sentir libéré d'un poids et soulagé. Alors les hommes pleurent-ils peu? Et si oui, pourquoi? Enseigne-t-on aux garçons le fait de ne pas exprimer leurs émotions? Une certaine idée de la masculinité qui commence à évoluer puisque récemment, on a vu certaines personnalités, Barack Obama, Joe Biden, Justin Trudeau, entre autres, pleurer en public. Avec nous, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Aurélia Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le magazine féminin français Cosette et vous avez écrit le livre « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Merci d'être avec nous en studio. Bonjour Ibrahim Haïdara.
Bonjour Charlie.
Bonjour, vous êtes psychologue à Bamako, merci d'être en ligne avec nous. Nous joindrons également Anne-Vincent Buffaut, historienne des sensibilités, qui a publié l'ouvrage « L'histoire des larmes ». Et nous serons en ligne avec Sikou Niakate, qui a lui réalisé un documentaire « Dans le noir, les hommes pleurent ». On y voit quatre hommes s'exprimer sur ce sujet, parfois tabou, des pleurs. Et vous, les voisins, à quel moment vous autorisez-vous à pleurer? Et quand choisissez-vous de retenir vos larmes? À quoi associez-vous cela chez un homme, à de la sensibilité, à de la faiblesse ou bien à une forme de sagesse? Et les voisines, on ne vous oublie pas. Est-ce que vous, vous pleurez? Et quel regard portez-vous sur un homme qui pleure en public? On vous attend, les voisins, les voisines, dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41 et on a hâte de vous entendre.
7 milliards de voisins
qui refont le monde avec 7 milliards de voisins.
Alors on a déjà de nombreux messages sur notre page Facebook, le sujet vous fait réagir les voisins. Rodrigue nous écrit depuis Yaoundé, la seule fois où mes larmes ont coulé en public c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. Généralement j'arrive à me retenir puisque dans mon éducation on m'a toujours dit que les pleurs c'était pour les femmes. Moutoulou et lui à Kinshasa, j'ai déjà versé des larmes après avoir raté la soutenance de mon travail de fin d'études à l'université. C'était la première fois que je voyais des larmes dans mes yeux. Huguette, une voisine qui est aussi en RDC, réagit. Elle nous dit « Un homme qui pleure, c'est juste humain ». Et puis, je vous lis le message de Jacques hein, depuis Tananarive à Madagascar. « Moi, je ne montre jamais mes larmes devant tout le monde, alors qu'au fond de moi, je pleure. Alors je pleure seul. Un homme qui ne pleure pas, pour moi, c'est un homme qui n'a pas de cœur. »
Bonjour, 7 milliards de voisins. Moi, c'est Cédric, depuis Douala au Cameroun. Verser des larmes, c'est tout à fait naturel, mais pour moi, ça dépend des situations face auxquelles on se retrouve. Dans une situation d'obsèques, lorsque je vois un prêtre qui fait les dernières prières et que le cercueil est prêt à aller sous terre, là oui, je vais verser des larmes, vraiment pleurer parce que là je suis chagriné. J'ai mal de voir l'être aimé partir ainsi. Je vais aussi pleurer lorsque en face de moi j'ai un frère, une sœur, une personne que j'aime bien qui est en souffrance. Oui, là aussi je vais pleurer, je verse des larmes. Je compatis à la douleur de l'être aimé. Des situations différentes, je n'aime pas pleurer face à une femme. Là, c'est montrer ma faiblesse. Je ne pleure pas pour la femme. Je ne pleure pas face à une femme parce que lorsque tu verses les larmes pour une femme, elle se sent supérieure. Et je n'aime pas donner ce plaisir à la femme. Voilà.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Alors, message de Cédric, hein, laissé sur WhatsApp. Comment vous réagissez à la parole de ce voisin, Aurélia Blanc?
Je crois que Cédric n'est pas le seul à s'autoriser à pleurer ou pas, selon certaines situations. Et en même temps, c'est pas très étonnant, puisque depuis tout petit, en fait, les garçons sont dissuadés de pleurer. Donc ça passe par plein de petites phrases, « sois forte, t'es costaud, arrête de pleurer comme une fille ». Enfin, il y a vraiment une division qui se fait, je crois, sur ce rapport entre hommes-femmes. Et donc cette idée, comme vous le disiez en introduction, que les filles, les femmes pleuraient beaucoup naturellement et que pleurer quand on est un garçon ou un homme, ce serait un signe de faiblesse.
Avec l'idée que Cédric ne veut pas pleurer devant une
devant
femme.
Devant une femme, puisque finalement, il se retrouverait en position peut-être d'infériorité, donc on joue finalement sa place sociale. Et j'ai en tête un sondage qui avait été fait au début des années 2010, alors par une marque, une enseigne de casino, auprès de ses clients, et il leur demandait s'ils s'autorisaient à pleurer. 81% des 400 hommes interrogés disaient que jamais, au grand jamais, ils ne s'autoriseraient à pleurer en public, que c'était impensable pour eux. Par contre, il y avait quand même quelques situations où ils reconnaissaient que ça pourrait être admis de pleurer quand on est un homme. Et donc, ils citaient pour trois quarts d'entre eux la naissance d'un enfant. Plus étonnant pour la moitié d'entre eux, la défaite d'une équipe, de leur équipe sportive favorite. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des situations où il est socialement admis de pleurer quand on est un homme et d'autres beaucoup moins.
Alors, Dans le noir, les hommes pleurent. C'est le titre d'un documentaire dont on va tout de suite écouter un extrait. Un documentaire dans lequel des jeunes hommes issus de quartiers populaires à Paris se livrent pour la première fois de leur vie sur leur rapport aux larmes. Écoutez.
Pour moi, pleurer, ça reste du domaine de la faiblesse, de ce qu'on m'a appris. Même si je sais que c'est faux, j'ai du mal à me défaire de cette image, tu vois, que pleurer, c'est une preuve de faiblesse. Ça m'arrive très rarement de pleurer, parce que le jour où mon père est décédé, un de mes oncles m'a dit, je crois qu'il m'a dit, les hommes, ça pleure pas. Et je pense que depuis, c'est comme si je gardais mes larmes pour des occasions graves, ou comme si je pleurais, c'est comme si je gaspillais les larmes du deuil de mon père déjà. Mais quand j'étais plus jeune, je pleurais de ouf. C'est la vie de pleurer, tu vois. Moi, c'est... Je prends le métro, je vois un truc qui me brise le cœur, je vois un SDF, je peux fondre en larmes, tu vois. Trop fatigué, journée de ouf, je rentre, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je regarde un film, je suis ému, j'ai envie de pleurer, tu vois. Même pas besoin d'avoir des morts, moi, je suis quelqu'un d'hyper sensible. Mais ma mère, très jeune, elle me disait, c'est des larmes de crocodile, elle me disait. Elle me disait que c'était faux. Je sais pas si c'est un lien avec le fait que je sois un homme, mais c'est quelque chose qui était réfréné, tu vois. Le fait que je veuille pleurer. Alors que enfin, moi, c'était totalement normal, tu vois. Avec l'habitude, maintenant, c'est même plus mon routine. C'est comme si, en fait, justement, j'avais ces comportements constants qui fait que je ne me mets plus dans des positions où je serais susceptible de m'effondrer comme ça, par exemple. De m'effondrer, je te dis, même pleurer. Ça serait limite comme un échec.
Bonjour, Sikounia Kate.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, vous avez notamment réalisé un documentaire qui s'appelle « Dans le noir, les hommes pleurent ». Comment vous est venue l'idée, l'envie de réaliser ce documentaire sur ce sujet-là ?
C'était d'abord un fantasme. La toute première ambition pour moi, c'était personnellement d'aller voir des hommes et d'aller voir chez eux si j'allais trouver les mêmes barrières et les mêmes tiraillements que j'ai pu trouver chez moi.
Et est-ce que vous pleurez ?
Est-ce que moi, je pleure ? Non. Alors, il m'est arrivé de pleurer, évidemment. Il m'est arrivé de pleurer pour des rares occasions qui ont été plutôt tragiques. On peut parler de deuil ou de rupture. Mais il ne m'arrive pas de pleurer, non pas parce que je me retiens ou parce que je trouve ça dévalorisant. C'est juste que pendant très longtemps, je me suis fermement interdit de pleurer. Et c'est devenu une forme d'hygiène de vie. Je ne pense pas que je suis un homme qui pleure. Mais je le dis sans grande fierté, hein. C'est pas du tout quelque chose de valorisant, c'est juste le résultat de ma construction. Je pense que ça prendra encore quelques temps avant que je puisse, par exemple, pleurer devant un film ou pleurer lorsque je suis bouleversé.
Et donc c'est cette réflexion sur votre rapport aux larmes et aux émotions qui vous donne envie de faire ce documentaire, et vous allez rencontrer quatre autres hommes.
Tous viennent de quartiers parisiens, différents quartiers parisiens. Moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement, du côté de Jaurès, Stalingrad, Riquet. Et dans les quartiers, cette masculinité ou cette manière d'être masculin est exacerbée. Je pense que ça a à voir avec la pauvreté. Je pense que dans les quartiers populaires, ce sont évidemment des regroupements de familles plutôt pauvres, pour ne pas dire très pauvres. Et je pense que lorsqu'on est dépossédé, évidemment économiquement, et peut-être par le même coup culturellement, la seule chose qui nous reste véritablement, c'est le corps. Et je pense que, étant la seule chose qui nous reste, on met un point d'honneur à ce qu'il soit performant. On peut le voir sportivement, mais ça a aussi une démonstration dans la manière dont on va canaliser les émotions. La canalisation des émotions devient une performance physique. Au fond, dissimuler ces émotions-là, c'est dissimuler une part de féminité. Ça ne veut absolument rien dire, puisque pour moi, ce sont des émotions totalement humaines, Mais vu qu'on les a genrés, vu qu'on a eu la bêtise de les genrer, donc c'est plus à travers le regard de l'autre. Et c'est quelque chose qui est très fort, je pense, déjà en société, mais aussi et surtout en quartier populaire. Vraiment, j'insiste dessus.
Quel propos d'un de vos interlocuteurs a pu vous marquer à ce sujet-là ?
Bah, celle qui m'a marqué davantage que les autres, peut-être, c'est celle d'un intervenant qui, lorsqu'il évoque son rapport aux larmes, il évoque la manière dont, même lorsqu'il est seul devant un miroir, il ne s'autorise pas à pleurer. Et je trouve ça très fort parce que ça veut dire que le regard de l'autre le suit jusque son intimité, la plus secrète. Une chose que j'ai pu observer, par exemple, durant toute ma vie, c'est à quel point les larmes ne sont pas autant autorisées, par exemple, que pour les femmes, mais elles peuvent l'être dans certains cadres qui sont des cadres qui sont de l'ordre de la virilité. Par exemple, un homme qui verse une larme de colère, c'est un peu plus acceptable. Mais le foot, c'est aussi, pas que, mais c'est aussi un espace qui est de l'ordre du sport, donc de la virilité, et c'est un espace dans lequel les larmes sont acceptées.
On peut pleurer et parce que son équipe a perdu le match, par exemple.
Exactement, ou parce que son équipe a gagné. Et en même temps, il y a beaucoup d'hommes pensent qu'il faut être tout de même dans la séduction, ou pour plaire aux femmes, l'archétype du mec qui est viril, qui est confiant, qui n'est pas faible, etc. Et donc, je sais qu'il y a énormément d'hommes aujourd'hui, à notre époque, qui se trouvent dans une impasse incroyable entre incarner cet homme viril, confiant, etc., qui semble être plus attractif sur le marché sexuel, et incarner cet homme qui serait plus dans un échange émotionnel, qui est peut-être plus pertinent pour une relation amoureuse.
Et vous, alors, comment vous gérez cet entre-deux-là ?
Je ne suis pas du tout dans l'incarnation d'une virilité. En tout cas, dans mon comportement, ce n'est pas quelque chose que je défends. Et en même temps, la dernière fois, j'ai eu de la conversation avec un ami à moi qui me dit « Mais toi, tu peux te permettre de ne pas être dans cette incarnation-là, vu que tu fais 1m95 et que tu es musclé. Alors que moi, faisant 1m70, je dois compenser le fait de ne pas projeter ça physiquement par cette attitude. »
Ce qu'on comprend en fait avec votre documentaire et puis en s'intéressant à ce sujet-là, c'est que des hommes qui ne pleurent pas, ce sont aussi des hommes qui cachent leur sensibilité, donc qui cachent une partie d'eux-mêmes. Est-ce qu'une des solutions aujourd'hui, c'est justement comme vous, comme les personnages de votre documentaire, qui sont des hommes jeunes, est-ce que la solution c'est de s'exprimer et de montrer qu'on peut pleurer, d'en parler ? Est-ce que c'est ça la solution, d'avoir un peu des contre-modèles masculins ?
C'est évidemment l'une des solutions. Au fond, ce qui est incroyable, c'est que il y a une forme d'omerta. On a l'impression, ou en fait on le sait, que les autres hommes sont aussi dans cette rétention, et en même temps, on n'en parle jamais. On entend très peu d'hommes venant des quartiers populaires s'exprimer sur cette question-là, par exemple. Faire entendre des hommes sur cette question est très important. Mais par contre, faire entendre des hommes de tous horizons.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors vous pouvez retrouver ce documentaire « Dans le noir, les hommes pleurent » en intégralité sur YouTube. Il dure une heure et on vous le recommande. Qu'est-ce que cela vous inspire, Ibrahim Haïdara ?
Ah oui, là c'est quelque chose de très, très parlant. Je pense qu'il faut qu'on se dise que les pleurs, c'est comme les autres émotions. C'est comme rire, sourire, s'éclater de rire. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on ne retient jamais quelqu'un qui veut rire, qui veut s'éclater de rire. On ne dit jamais « arrête de rire ». Par contre, on s'interdit ou on interdit toujours à l'autre de ne pas pleurer. Alors que ça fait partie des émotions humaines. Même les animaux à quatre pattes, ils ont cette émotion. Donc je pense que ce documentaire est très parlant. On doit tous le regarder et le revoir. Moi-même, je vais m'y mettre. Et il faut vraiment qu'on se dise que les hommes, ils pleurent intérieurement. Et ceux qui pleurent intérieurement, qui n'arrivent pas à pleurer extérieurement, donc qu'on ne voit jamais les larmes, ça peut porter confusion dans la société. Et ça, ce serait vraiment dommage, parce que l'homme qui ne pleure pas, qui n'a jamais versé de larmes devant les gens, on va le traiter d'homme dur, qui n'a pas de cœur, alors que c'est pas ça, tout simplement. Il est en train de se retenir. Et ça, ce n'est pas bien, parce que en voulant exprimer son émotion à travers les pleurs, la souffrance, on peut finalement réveiller quelque chose chez l'autre. Ça, c'est très important.
Et justement, alors vous qui êtes psychologue, est-ce que vos patients hommes, vos patients masculins, pleurent dans votre cabinet ?
Alors, très clairement et très sincèrement, ils pleurent. Je suis sûr et certain qu'ils pleurent parce qu'ils sont en face d'un homme, parce qu'on est au Mali, la culture est assez spéciale. Un homme ne va pas s'amuser à pleurer en public ou devant une femme, comme disait l'autre. Mais mes patients pleurent. Ils pleurent à un certain moment quand on entre en profondeur dans les échanges, dans les entretiens cliniques. Et je mesure par là la souffrance de ces chefs de famille ou de ces enfants ou de ces jeunes qui me font savoir qu'ils souffrent depuis très longtemps. Et comme on ne les voit pas pleurer, bien sûr, ils sont en train de vivre au quotidien des situations qui sont très difficiles à surmonter. Et heureusement qu'il y a le psychologue qui est là pour laisser couler les émotions. Dans chacun de mes bureaux, il y a une boîte de mouchoirs. Voilà, je dis, allez-y, on va pleurer, vous allez pleurer. Moi, je n'ai pas le droit de pleurer devant vous, parce que je suis professionnel, je dois rester neutre. Mais pleurez, puis après, on va faire en sorte que vous allez retenir vos larmes. Et ça se passe comme ça. Les gens arrivent à vider le sac, à pleurer et aller même en profondeur parce que plus ils pleurent, plus ils arrivent à aller sur certains détails qui me permettent, en tant que psychologue, de comprendre la souffrance ou le degré de la souffrance d'une telle personne. Il n'y a pas que le deuil pour pleurer parce que dans les situations de deuil, on voit les hommes ont parfois aussi du mal à retenir leur larmes. Mais d'autres souffrances, comme des difficultés en couple, un enfant qui n'a jamais pu bénéficier de l'affection, de l'amour de son père et qui l'exprime ici, je n'ai jamais eu de bonheur avec mon père. Quand un enfant me dit ça ou un jeune me dit ça, ça montre quand même qu'il est vraiment marqué par ça.
7 milliards de voisins, nous parlons des larmes et des hommes aujourd'hui. Si vous êtes un voisin, pleurez-vous seul en public, racontez-nous votre rapport aux larmes. Les voisines, on attend aussi vos témoignages et vos questions pour nos invités et on va accueillir un voisin tout de suite.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Bonjour Michel.
Bonjour Charline.
Merci d'être avec nous en direct. Alors Michel, vous avez 26 ans, vous êtes prof d'anglais dans le centre du Cameroun. On vous écoute.
Oui. D'accord, ma petite expérience est la suivante. Bon, en grandissant, on dit parfois que c'est pas bien qu'un garçon pleure. Les larmes, c'est plus pour les filles et tout. C'est un signe de faiblesse de pleurer. Mais bon, j'ai grandi en étant très sensible, surtout lorsque je suis en public, je suis avec des gens, et parfois il m'est arrivé de pleurer. Bon, malheureusement, c'est pas quelque chose que je souhaite, parce que ici, c'est assimilé à de la faiblesse. Donc, par exemple, mon anniversaire récent, avec des amis, ils m'ont souhaité joyeux anniversaire, j'ai pas pu me retenir. Bon, c'était un peu gênant pour moi quand même, parce que en fait, je suis passé grand, fort devant les émotions, mais après...
Vous avez pleuré devant vos amis.
Oui, parfaitement.
Et est-ce que dans le cadre de votre métier, il vous est arrivé de pleurer?
Oui, justement, également, une autre fois encore, c'était le mois passé, j'ai enseigné une chanson que généralement on utilise pour lancer nos leçons. Ce sont des mises en train. Donc, je l'ai enseigné et les enfants l'ont reprise tellement bien. C'était magnifique, c'était parfait. Et ça m'a fait pleurer. J'ai dû sortir une minute pour vraiment prévenir dans mes émotions avant de continuer la leçon.
Vous êtes allé pleurer à l'extérieur de la classe parce qu'ils avaient chanté cette chanson bien, comme vous le dites.
Oui, très bien.
Et vous avez une question, je crois, Michel.
Bon, du discours du psychologue, je me rends compte que ce n'est pas si mal, c'est pas si mauvais de pleurer, puisqu'on ne peut pas, on ne doit pas retenir le rire, pourquoi retenir les pleurs? Mais bon, si jamais c'est gênant comme chez moi, pour moi c'est un peu gênant, quelles sont les stratégies que je peux employer pour arrêter de pleurer, voilà, de montrer une trop forte émotivité en public?
Donc vous voulez essayer de retenir vos larmes justement, c'est ça votre question?
Oui, oui.
Ibrahim Aïdara, est-ce que je peux vous laisser répondre?
Oui, alors je trouve que pour Michel, c'est pas très, très judicieux, en tout cas pas positif de retenir ses larmes. Sincèrement, si une émotion, il faut la faire sortir de son corps. Il y a quelque chose quand même qu'on emmagasine. Si on pleure, c'est qu'on a quelque chose en nous, dans notre fort intérieur. Et à l'inverse aussi, si on rigole, on s'éclate de rire, c'est qu'on est très bien, on extériorise ça. Et donc quand on garde toujours ça sur soi et qu'on a chaque fois des états de tristesse en nous qu'on n'arrive pas à extérioriser, ça va nous transformer et ça va jouer sur notre quotient émotionnel. Là, je parle vraiment un peu spécifique. Je pense qu'il faut savoir exprimer sincèrement ses émotions, que ce soit le pleur, les rires. Et puis, comme je disais, ça permet aussi à votre entourage de mesurer le degré de votre affection, comment vous avez été atteint. Parce que c'est vrai que si vous montrez que vous êtes très fort, on ne va pas forcément vous secourir et vous allez vous cacher derrière pour pleurer et il n'y a personne pour vous épauler. Et là, ça va être vraiment dommage.
Merci en tout cas, Michel, pour votre témoignage. Alors, on va faire un petit pas en arrière hein, dans notre histoire. Bonjour Anne-Vincent Buffot.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sensibilités. Vous publiez l'histoire des larmes chez Payot. Alors déjà, hein, jusque-là, qu'est-ce que tout cela vous inspire ?
Ben effectivement, il semblerait que ces messieurs aient du mal à pleurer en public, alors qu'à certaines périodes, en fait, les hommes se sont totalement autorisés à pleurer en public.
Alors justement, à quelle période les hommes pouvaient pleurer ?
Alors déjà, dans l'Antiquité, si on lit l'Iliade, Achille a des pleurs très virils, il a des sanglots absolument terribles et terrifiants qui font aussi peur que son ardeur au combat. Et donc un héros grec pouvait pleurer de façon très démonstrative. Donc il y a quand même des époques où les hommes peuvent pleurer en public tout en étant des héros et des combattants.
Et vous évoquez aussi le Moyen-Âge où on pleurait beaucoup en tant qu'homme ?
Oui, en fait, au Moyen-Âge, effectivement, les larmes étaient surtout partagées dans la grâce, c'est-à-dire que les saints avaient le don des larmes. C'était un signe de sainteté que de savoir pleurer. Et Saint Louis, qui ne l'avait pas, en fait, a invoqué le Seigneur pour avoir le don des larmes. Mais surtout au XVIIIe siècle, les hommes ont beaucoup pleuré en public. C'est-à-dire qu'on allait même au théâtre voir des comédies larmoyantes pour être sûr de pouvoir pleurer en public. Et tout le monde se délectait de ces larmes publiques.
Donc en tant que spectateur, on pleurait. On s'affichait en train de pleurer.
Oui, oui, et effectivement, montrer ainsi qu'on était sensible, sensible à la douleur d'autrui, sensible à certaines valeurs, à la compassion, mais aussi à des valeurs d'amour familial, d'amour filial et de sentiment d'injustice.
Et alors, à partir de quelle époque les larmes deviennent quelque chose qui tourne autour de la sphère privée en Europe ?
Ben, c'est au XIXe siècle, effectivement, que les hommes ont arrêté de pleurer en public pour y risquer effectivement leur honneur. Et avait tout à fait honte de pleurer en public, et les larmes étaient réservées aux femmes. Et du coup, les larmes ont été dévalorisées comme un liquide un peu physiologique, qui était simplement un dérèglement de la machine nerveuse chez les femmes, qui étaient des êtres assez peu organisés.
Et alors justement, pour parler un petit peu des femmes, comment dans l'histoire on a appris à percevoir ces larmes des femmes ?
Donc effectivement, dans l'Antiquité, il y a toujours le cœur des pleureuses. Et donc, effectivement, de toute façon, dans quand même beaucoup de civilisations, au moment des deuils, il y a une espèce de cœur des femmes pleurantes. Donc les pleurs des femmes sont du côté de la douleur, et pas de l'énergie. Hein. Et puis, effectivement, les femmes pleurent plus que les hommes. Et parfois, on considère qu'effectivement, elles sont sensibles, mais parfois aussi qu'elles sont sentimentales. Ou qu'elles utilisent des larmes comme un moyen de pression.
Et on considère aussi que les femmes qui pleurent sont plutôt immatures.
Oui, c'est ça. Enfin, maintenant que les femmes travaillent, si vous voulez, si on les voit pleurer au travail, parfois on les accuse d'immaturité. Et effectivement, il vaut mieux se montrer toujours en pleine maîtrise de ses moyens et surtout pas utiliser le chantage des larmes.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Vincent Buffot pour cet éclairage historique. On peut aussi vous entendre dans le podcast « Pourquoi les hommes ne pleurent pas ?» réalisé par Antoine Lalanne-Desmé dans le cadre de la série « Émotions » produite par Louis Média. Aurélia Blanc, qu'est-ce que ce petit passage historique vous inspire, ce retour en arrière ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qu'on met derrière la virilité, par exemple, ou la féminité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? C'est tout à fait relatif, puisque ça varie selon les époques, les cultures, et qu'il n'y aurait pas une nature masculine immuable qui voudrait que, par essence, les hommes ne pleurent pas.
Il y a
une dimension culturelle très très forte. L'un des intervenants tout à l'heure évoquait le fait que la colère, verser quelques larmes de colère, c'était quelque chose qui finalement restait
acceptable.
Acceptable lorsqu'il s'agit d'un homme, je trouve ça très intéressant parce que quand on regarde des petits-enfants, des bébés, il se joue déjà quelque chose. Donc rappelons quand même que le premier moyen, l'un des premiers moyens d'expression du petit humain, c'est quand même les pleurs.
Garçons et filles,
exactement. Tous les bébés pleurent, mais est-ce qu'on interprète leurs pleurs de la même façon? Eh bien, pas du tout. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées là-dessus. Il y en a une qui est quand même assez parlante et connue, et que je trouve intéressante. Elle a été menée en 1976 aux États-Unis et dans une université américaine. On avait montré à deux groupes d'étudiants la vidéo d'un bébé qui est en train de jouer, un bébé de 9 mois, et ce bébé se met à pleurer. À la moitié des étudiants, on a dit « ce bébé est une fille ». Et à l'autre, ce bébé est un garçon. Et on leur a demandé d'interpréter les pleurs. Et unanimement, les étudiants qui pensaient avoir affaire à une petite fille étaient certains que cette petite fille avait peur. Mais quand il s'agissait du soi-disant petit garçon, ce petit garçon pleurait de colère, bien évidemment. Donc on voit bien que déjà très tôt...
On calquait des émotions différentes, en fait.
On calque et on interprète les choses comme si le bébé garçon ne pouvait pleurer que de colère ou de frustration terrible.
7 milliards de voisins, restez avec nous. Boys don't cry, si on vous le dit. C'est tout de suite sur RFI et c'est signé Mokita, en chanson reprise bien sûr des mythiques The Cure. Voisins, on parle des hommes et de leurs larmes aujourd'hui, un sujet qui inspire la littérature.
La douleur le frappe, comme un coup de fouet. Il voudrait hurler de nouveau, mais déjà ses oncles le félicitent.
Tu as supporté ça comme un bras, tu es un petit homme courageux, nous sommes fiers de toi.
Et Hamid n'ose pas les faire mentir. Avant la circoncision, il pouvait encore se permettre les pleurs, mais à présent... Ce jour-là, il commence, sans en être conscient, une vie de dents et de poings serrés, en silence, une vie sans larmes, sa vie d'homme. Plus tard, par automatisme culturel, il dira parfois « j'ai pleuré » pour signifier qu'il est ému. Mais en réalité, ses yeux s'assèchent, l'année de ses 5 ans.
Extrait du roman « L'art de perdre » de Alice Zeniter, lu par Romain Dubrac. Le personnage de Hamid, père de la narratrice, vient de vivre une circoncision et donc raconte comment il a appris à taire ses larmes par la suite. On va écouter un voisin, Diderot, qui nous a laissé un message sur WhatsApp depuis Douala.
Bonjour à tous. Je n'ai jamais vu une seule larme de mon père couler, alors qu'il est passé par beaucoup de situations terribles, comme par exemple la perte d'un enfant. Chez nous, si un homme pleure face à une situation, vous allez voir, on lui demande « Tu es une femme, qu'est-ce que tu fais comme cela ?» Donc du coup, les larmes d'un homme sont assimilées à la faiblesse. Il est dit quelque part chez nous que si les larmes d'un homme doivent couler, ces larmes doivent couler à l'intérieur. Ou aussi, S'ils doivent vraiment pleurer, ils doivent le faire sous la pluie pour qu'on ne voit pas les larmes couler. On peut ressentir des émotions, on peut être sentimental et tout, mais on n'a pas le droit de pleurer. Moi, personnellement, depuis que je suis adulte, j'ai jamais pleuré. Parfois, je fais des efforts. Quand j'arrive au deuil, par exemple, il y a des situations compliquées. Je fais des efforts, mais je n'y arrive pas, les larmes ne coulent pas. Pourtant, je suis touché, pourtant j'ai mal. Donc, un homme doit être fort. Il faut affronter la vie, il faut résoudre des situations concrètes. Et pour cela, on ne peut pas le faire en pleurant. Merci.
Ibrahim Haïdara, en quoi ne pas pleurer, ça peut se transmettre au sein de la famille, en voyant un père, un oncle qui retient ses larmes, par exemple?
Alors, dans le contexte culturel malien, je pense que ça a une importance, dans la mesure où ça peut effectivement, je dis bien dans certains cas, montrer que le père est plus fort pour supporter telle ou telle situation de la vie, et qu'il va apprendre aussi à sa descendance, à ses enfants, notamment les garçons, mais pourquoi pas les filles aussi, d'être aussi fort. Je pense que pleurer, il faut qu'on arrive à dédramatiser cette émotion. Ce n'est pas si dramatique que ça. Bien sûr, culturellement, voilà, un homme qui pleure facilement devant d'autres hommes ou dans en public, ça peut laisser apparaître une certaine fragilité. C'est l'homme, mais pas forcément ça. Les gens sont différents. Il y a des gens qui ont du mal à rigoler, il y a des gens qui ont aussi du mal à pleurer. Mais je pense qu'il faut être assez prudent pour ne pas toujours jouer à l'homme qui doit tout supporter, qui ne doit pas pleurer, qui doit être fort. Il est fort, mais il peut être aussi fragile. Ça dépendra bien sûr de l'événement qu'il va traverser. Quand il va être dans une période de deuil ou d'échec professionnel inattendu, il va forcément pleurer. Il va pleurer peut-être à petites larmes devant les gens, et quand il va se retrouver seul dans son coin, il va pleurer. Donc c'est une question vraiment de savoir gérer les émotions qu'on peut aussi générer chez l'autre. Ça a toujours un effet. Le rire est communicant. Quand on rigole, on rit devant les gens, un enfant qui rit, finalement, il peut faire rire aussi d'autres personnes. Le pleur, c'est la même chose. Les pleurs, c'est la même chose. On pleure devant les gens, et puis aussi faire comprendre que c'est difficile pour tout le monde. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment qu'on soit d'accord que pleurer, ça ne veut pas dire qu'on est fragile, mais c'est tout simplement partager aussi sa souffrance avec les autres. Sinon, il n'y a que quelques personnes seulement qui partagent les souffrances, notamment les femmes, les filles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout correct.
Alors, on continue de dédramatiser et de partager cette émotion, comme vous le dites, avec vous, les voisins. La parole est à vous aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Cédric à Abomey-Calavi. Bonjour, Cédric.
Oui, bonjour, Charlie.
On vous écoute, Cédric.
OK. Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il m'arrive de pleurer parfois. Même si c'est extrêmement rare, même si c'est un fait inhabituel, ça m'arrive de pleurer.
À quel moment, par exemple?
Bon, la dernière fois que j'avais versé des larmes, ça remonte à 8 mois environ.
Ok, et c'est précis.
Oui, voilà. C'était à cause d'une déception amoureuse. Donc, le jour-là, bizarrement, j'étais assis à une place publique. Et tellement, ça faisait mal que je n'ai pas pu retenir les larmes. Voilà, ça a commencé par couler tout seul.
À la suite d'une souffrance amoureuse, hein, vous le dites.
Bien sûr, bien sûr.
Alors la ligne est un petit peu mauvaise, Cédric, mais merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez réagir, Ibrahim Haïdara?
Oui, tout à fait. Donc on voit là qu'il y a eu quand même une opportunité de pleurer, entre guillemets, je mets l'opportunité entre guillemets. Et il n'y a pas que les états de profonde tristesse, de deuil par exemple. Là, un chagrin d'amour ou une situation difficile avec son partenaire ou son futur partenaire, ça permet aussi de savoir comment on est sensible. Il y a beaucoup de femmes qui disent que les hommes ne sont pas sensibles. Si, ils sont sensibles. Seulement, c'est très difficile de dénicher la sensibilité d'un homme. Il y a des hommes qui sont aussi, voire autant sensibles que les femmes, mais ils ne vont jamais le montrer. Parce que justement, comme disait un auditeur, que pleurer devant une femme, c'est aussi montrer qu'on est fragile. Mais non, ce n'est pas vous montrer qu'on est fragile. Et ce n'est pas aussi forcément du chantage dans le sens où une femme pleure devant un homme comme un homme qui pleure devant une femme. C'est très important. Le pleur, ça soulage. Et en général même,
quand on pleure vraiment, même si c'est au profond de soi-même, même si les larmes ne coulent pas, on se rend compte finalement de la gravité d'une situation et ça permet de réfléchir. Sur le plan psychologique, c'est très important que quand on n'est pas bien et qu'on pleure, ça nous permet de nous remettre en question ou de revoir la vie autrement.
Ça permet d'avancer en fait, de pleurer.
Ouais, ça permet d'avancer le pleur. Quand on voit toutes ces séries de décès avec le coronavirus, on s'est dit finalement la vie n'est absolument rien. Et si c'était pas si triste que ça, peut-être qu'on allait être très dur, les hommes comme les femmes. Donc, il faut parfois un peu de tristesse dans cette vie pour pouvoir réveiller les consciences. Mais les gens pensent qu'ils sont costauds. Je dis toujours dans mes consultations, il ne faut pas jouer aux oraux. L'homme ne doit pas en permanence montrer qu'il est le plus fort physiquement, économiquement, émotionnellement. Non, il faut partager vraiment ce côté émotionnel qui permet à l'autre, surtout dans les familles, de comprendre qu'on est aussi touché. Parce qu'on va toujours dire, celui-là ou celle-là, elle n'a pas de cœur. Mais non, c'est parce qu'elle traverse différemment les émotions, hein, que ce soit le rire ou encore les pleurs.
Et justement, dans votre cabinet, comment vos patients accueillent leurs pleurs, leurs larmes? Est-ce qu'ils en ont honte? Est-ce qu'ils essayent de se cacher au départ?
Alors oui. Très sincèrement, Charlie, il y a beaucoup qui ont pleuré au départ. Qui ont honte au départ parce qu'ils n'ont pas l'habitude de pleurer. Du coup, ils vont venir chez un psychologue pour pleurer et ils vont repartir. C'est pour ça que je ne laisse pas les gens partir comme ça quand ils sont très émus. Mes consultations peuvent vraiment déborder sur le temps imparti. Et moi, je dis que le patient qui vient, qui pleure ici, c'est qu'il n'a pas eu cette occasion de le faire en public ou même dans son foyer. Et c'est un pleuroir, je ne sais pas si ça existe ce mot. C'est permis, c'est autorisé de pleurer. Et finalement, quand il vient à la première consultation, il va avoir honte d'avoir pleuré devant moi. À la deuxième consultation, il va vraiment revenir sur la séance antérieure. J'ai pleuré, j'étais gêné, mais ça m'a fait du bien. Et donc finalement, ça permet vraiment à la personne de prendre conscience de certaines choses qu'il a peut-être négligées ou qu'elle a peut-être négligées.
Et de dépasser cette honte.
Charlie, vendredi passé, j'ai un père d'un jeune de 20 ans. Le jeune, il est entré dans la drogue, brillant à l'école comme tout. Je les ai reçus ensemble parce que je voulais les recevoir séparément, mais ils avaient cette complicité incroyable. Le père, il est entré dans les détails de sa souffrance. Quand il a vu, il a découvert que son fils, si bien éduqué, si bien intelligent, comment il a pu consommer de la drogue et à domicile. Le père a frappé violemment son fils de 20 ans et il m'a décrit par les mots, et j'ai vu même dans ses yeux les larmes qui commençaient à venir. Il dit qu'il ne savait plus comment faire. Comment mon fils, mon premier fils, parce que c'est très important au Mali, en Afrique, cet héritier qui est là, comment il peut me faire honte? Et il a battu son fils, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. Et devant son fils, il m'a démontré, il m'a fait croire que vraiment, ce n'est pas qu'il n'aime pas son fils, mais qu'il était totalement désemparé, démuni dans sa souffrance. Mmh. Et là, le fils, j'ai remarqué, le fils en a pris conscience, très sincèrement. Il m'a dit verbalement, je veux que vous me débarrassiez de cette substance que je consomme. Et il a fallu qu'il voie son père dans cet état-là. Et je suis sûr et certain que si la maman du fils était là, le père n'allait pas être dans cet état émotionnel. Parce que ce jour-là, fort heureusement, la mère n'a pas pu venir, alors que moi, j'ai insisté à ce qu'elle soit présente. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut avoir honte, mais alors, la vie continue. On a honte quelques secondes, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très difficile. Il vaut mieux pleurer, parce que ça va s'accumuler en nous, et finalement, les gens vont être très timides, très renfermés sur eux-mêmes.
Aurélia Blanc, pardon, je vous interromps, Ibrahim Haïdara. Aurélia Blanc, vous voulez réagir?
Oui, on parle du fait de pouvoir pleurer, et de « il faut pleurer ». Il y a des campagnes aujourd'hui, notamment en Grande-Bretagne, en Australie, qui incitent les hommes à pleurer. Alors, d'une part, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une éducation depuis très longtemps pour apprendre aux petits garçons à ne pas pleurer, à tel point que des hommes disent « les larmes ne coulent plus alors que j'ai des émotions fortes, je ne sais plus pleurer en fait ». Et ces campagnes qui sont aujourd'hui menées, il y en a eu plusieurs, souvent par des associations en fait, de santé mentale. Et je crois que c'est assez intéressant parce que finalement, après tout, pourquoi est-ce qu'on veut que les hommes pleurent? Pourquoi inciter les hommes à pleurer? On pourrait se dire, bon, bah, très bien, les hommes ne pleurent pas et puis c'est ainsi. Mais en fait, il y a quand même plus plusieurs travaux, notamment celui de la Société américaine de psychologie, qui font un lien direct entre l'incapacité d'un certain nombre d'hommes à ne pas pleurer et leur santé mentale, c'est-à-dire les hommes se suicident quand même beaucoup plus que les femmes. Hein. C'est la première cause de mortalité aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne chez les hommes jeunes. Ils meurent plus d'overdoses. Bon, il y a un rapport aussi à la santé mentale, c'est-à-dire toutes ces émotions qui ne sortent pas, à un moment donné, elles peuvent se transformer en violence envers les autres, envers soi-même. Donc, ce n'est pas seulement une question d'empathie, d'égalité, de hiérarchie, de représentation du féminin, du masculin. Il y a un vrai enjeu aussi de santé publique, quelque part.
Pour les hommes.
Pour que les hommes puissent pleurer et qu'ils aillent mieux, parce que ça va plus largement avec le fait de se confier sur ces états d'âme, bien sûr.
Alors justement, on va joindre des voisins qui assument de pleurer et qui pleurent. Bonjour Koulibaly.
Bonjour.
Vous avez 32 ans, vous êtes dans le Morbihan, on vous écoute.
J'avais voulu vous faire partager quelque chose. Quand j'étais enfant, je suis fils unique, je suis du Mali. J'avais jamais vu mon père pleurer, que ce soit dans des situations bonnes, des situations mauvaises, je n'avais jamais vu.
Incroyable.
Et j'ai passé sur cette route-là, je ne pleurais jamais. Et lorsque j'ai atteint le décès de mon père, lorsque j'ai atteint 30 ans, un jour je suis parti dans un hôpital, j'ai vu un bébé aveugle. Ce jour-là, j'ai pleuré, je suis tombé au sanglot, jusqu'à ce que les personnels de l'hôpital sont venus vers moi. Et après, la conclusion a été que lorsque j'ai pleuré, je me suis senti bien. J'ai senti que je me suis senti vraiment bien.
Après cet événement déclencheur qui vous a fait fondre en larmes, en fait, à 30 ans.
Oui.
Merci Koulibaly pour ce témoignage. Aurélia Blanc, est-ce que vous voulez réagir? Voilà, il a attendu 30 ans pour fondre en larmes en étant ému par...
Oui, on voit bien, monsieur évoque bien le fait qu'il s'est senti bien. Enfin, on peut imaginer qu'on se sente effectivement soulagé, libéré d'un poids, parce que en fait, ces larmes, elles pèsent aussi. Donc voilà, on peut que inciter à pleurer. Il y a la question des modèles aussi, je crois, qui se pose beaucoup quand on n'a jamais vu d'hommes pleurer devant soi et que les larmes restent associées finalement aux femmes. On se sent peut-être pas légitime ou quoi à s'exprimer. Donc effectivement, changer les modèles et les représentations. Et je crois que montrer des hommes en train de pleurer, c'est très important. On commence à le voir arriver par des travaux photographiques de la littérature jeunesse.
On voit aussi des personnalités politiques, Barack Obama, Joe Biden,
introduction, pleurer. Et en fait, il me semble que c'est pas anecdotique, en fait. C'est une sorte d'autorisation collective et de dire aux hommes... C'est humain, c'est normal, et voilà, allez-y.
Et on va joindre un dernier voisin, Dieudonné à Kinshasa. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Charlie.
Bonjour, alors vous aussi vous pleurez, je crois.
Oui, désormais. Désormais, j'ai appris à pleurer, mais auparavant je ne pleurais pas. Voilà, comme c'est la culture en Afrique et en particulier au Congo, quand vous êtes un garçon, vous devez être fort, entre guillemets, c'est ça. Donc même quand vous êtes bouleversé, vous êtes dépassé par les événements, on vous demande d'être fort.
Bon, et comment vous avez appris à pleurer alors justement?
J'ai appris à pleurer en lisant des livres sur le développement personnel. C'est vrai, le premier livre que j'ai lu, il ne parlait pas exactement du pleur, mais il m'incitait à être moi-même. Le livre de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. J'ai trouvé que par moments, je devenais gentil pour faire plaisir aux gens, mais au fond, moi, en tout cas, moi, j'ai un souci. Par exemple, quand j'ai perdu ma mère, j'ai senti qu'il fallait pleurer. Mais comme je suis le fils aîné de la famille, je suis entouré par les gens, il fallait que je sois modèle pour les autres, donc les calmer. Et je n'ai pas pleuré. Mais après, j'ai vu que ce n'était pas sérieux. Et en plus, ça ne me permettait pas de me défouler. Parce qu'au fond, je garde les larmes, mais à l'extérieur, je parais joli, je parais bien portant. Mais au fond, j'ai envie d'exploser.
Et Dieudonné, je crois que vous allez bientôt avoir un enfant. Est-ce que vous allez, si c'est un garçon, le laisser pleurer?
Exactement, je vais le laisser pleurer, je vais me rassurer qu'il a fini ses pleurs, et puis je vais vers lui. En tout cas, ça, je ferai.
Merci, merci beaucoup Dieudonné pour ce témoignage. Aurélia Blanc, on arrive à la fin de cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Vous parlez d'une révolution intime et silencieuse à mener, donc notamment auprès des jeunes garçons.
Oui, tout à fait. Alors je dirais auprès des jeunes garçons en priorité, parce que c'est le sujet, mais aussi peut-être des filles. C'est-à-dire qu'il faut en finir, je crois, avec cette idée quoi, que les hommes, les garçons, ça ne pleure pas. Oui, ils pleurent.
Et que c'est peu viril de ne et pas que pleurer, c'est peu viril, comme nous le dit une voisine Marie-Noël dans un message, effectivement.
Exactement. Et on peut aussi partir du principe que ça demande une certaine force personnelle de s'autoriser à pleurer devant les autres et de baisser la garde. C'est pas si simple qu'il n'y paraît. J'aimerais juste conseiller un petit livre jeunesse, puisque c'est le domaine dans lequel j'ai plus travaillé, qui s'appelle « Les grands garçons pleurent aussi ». Voilà, donc c'est pour des enfants à partir de 4-5 ans. Et ça revient sur cette idée que les grandes personnes, les grands garçons ne pleurent pas. Et en fait, si.
Eh ben merci pour cette recommandation. Merci Aurélie Blanc. Merci également à vous, Ibrahim Haïdara, d'avoir pris le temps de rester avec nous entre deux consultations. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Romain Dubrac, Delphine de Dianous, Elsa Olaizola, Juliette Brault. Merci à Didier Chérouz et merci à Antoine Nanandesmé pour ses conseils. Merci les voisins pour tous vos appels, pour vos messages. Et avant de se quitter, un petit répit musical avec Mboko Yo. C'est maintenant sur RFI et c'est signé Young Ace Waye.
Ombo kanini, courante et courante, maïti maïti, et belaba diplante au salaté. Ombo kanini, courante et courante, maïti maïti, et belaba diplante au salaté.
Mboko yo trafic d'influence et loco pamba, moke moke, tu sais qui je suis. Nakamu ekutunaba chauffeur à 500, bah otunabe, tu sais qui je suis. Aussi si kodami, bah poso, boa kanandela, oyo kasonite. On a payé les tailles à non non ya ya, on est aux assalités. On n'est pas tribaliste, faut pas nous diviser. Côte collinga ka équipa ka écoloté. On n'est pas des sous là, faut pas nous juger. On boit les bières parce qu'il y a pas l'eau au robinet. Pop pop champagne, go enter for your eyes, you go feel what I feel, pain and joy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini. Si t'es pas d'accord, j'suis pas là-bas. Abou Pierre.
Oh Mbo Kanini. Courante et courante. Maïti maïti. Et belle abba diplante au salaté. Oh Mbo Kanini. Courante et courante. Maïti maïti. Et belle abba diplante au salaté.
Mes français ne sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Mes français ne sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Mes français ne sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Mes français ne sont pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal
la bière est moins chère ici que la nourriture. Faites un choix à tous les prix. Premier bête plus de millionnaires que l'État. C'est pas un
débat. Et c'est le prix découverte RFI 2020 que vous venez d'entendre sur l'antenne de RFI. Demain, 7 milliards de voisins, les villes nouvelles sur le continent africain. Elles sont pensées comme une solution à la forte croissance des métropoles et de leurs bidonvilles. Mais pour certains, ces villes durables risquent de devenir des cités dortoirs hein, ou des villes résidentielles à destination des riches. Certaines de ces villes nouvelles ont déjà commencé à sortir de terre, au Sénégal par exemple, mais aussi au Burkina, au Rwanda, au Bénin. Nous ferons le point sur tous ces projets. Comment imaginer la ville africaine de l'avenir? On en parle demain les voisins. À demain.
Sept milliards de voisins, c'est fini.